Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le régime syrien poursuit ses frappes sur la Ghouta orientale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain. Nous évoquerons aussi la situation d'Afrine où les Kurdes reçoivent des renforts face à l'armée turque. Après la victoire des eurosceptiques en Italie, comment l'Union européenne peut-elle se relancer? Pour le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, il y a une très grande responsabilité sur les épaules d'Angela Merkel et Emmanuel Macron. Le chef de l'État détaille à Agen le volet de la réforme de la justice consacrée au sens et à l'efficacité des peines. Il veut favoriser les alternatives à la détention, mais garantir l'exécution des peines. Comment se préparer aux études supérieures? Le programme Premier Campus accompagne des lycéens boursiers pour leur éviter un échec en première année de licence. Dossier signé Hakim Kazmi. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos demain à la demande de la France et du Royaume-Uni pour faire le point sur la situation en Syrie. Les Nations Unies constatent l'absence de mise en œuvre de la trêve d'un mois réclamée dans une résolution adoptée à l'unanimité le 24 février. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 800 civils, dont 177 enfants, ont été tués depuis le début de l'offensive du régime syrien sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Et un rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre met une nouvelle fois en évidence le prix payé par la population civile en Syrie. Une autre information aujourd'hui, en provenance de ce pays, le front anti-Daesh s'effrite. On a appris que les Kurdes, membres des forces démocratiques syriennes, en pointe dans la guerre contre les djihadistes, ont décidé d'envoyer près de 1700 combattants vers l'enclave d'Afrin pour combattre l'armée turque et ses supplétifs. Les précisions de notre correspondant dans la région, Omar Waman.
Créé en octobre 2015 sous l'impulsion des États-Unis, les forces démocratiques syriennes, les FDS, ont été de toutes les guerres contre les djihadistes de Daesh. D'abord, le long de la frontière avec la Turquie, comme à Tal Abyad, puis à Shadadi, ou encore à Tabqa et son barrage, avant la mère des batailles, celle de Raqqa. En octobre 2017, Raqqa, capitale autoproclamée du groupe État islamique. Les FDS, composés d'une majorité de combattants kurdes, étaient devenus, aux yeux du monde entier, les fers de lance de la guerre contre l'obscurantisme et le terrorisme aux grandes dames de la Turquie voisine, ennemi juré des Kurdes dont les ambitions territoriales constituent, aux yeux d'Ankara, une menace existentielle. Recep Tayyip Erdogan, le président d'une Turquie membre de l'OTAN, mais surtout obsédé par les Kurdes et décidé à en découdre, s'est lancé avec ses supplétifs syriens à la conquête de la région d'Afrin, dans le nord de la Syrie, historiquement kurde. Raids aériens, sièges, offensives terrestres. Depuis le mois de janvier dernier, l'offensive turque a causé la mort de nombreux civils au point de pousser des centaines de combattants de ses forces démocratiques syriennes à déserter les fronts de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie pour rejoindre ceux d'Afrin. Les responsables des forces démocratiques syriennes, dont le sentiment est d'avoir été trahis par la coalition internationale, n'ont pas eu d'autre choix que d'envoyer à Afrin près de 1700 soldats prêts à mourir pour chasser Daesh de la Syrie.
Par ailleurs, un avion de transport russe s'est écrasé sur une base aérienne russe en Syrie. Les 32 personnes à bord ont été tuées. Le parquet russe a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour établir si les règles de sécurité n'avaient pas été violées. C'est ce que rapporte l'agence de presse RIA. Auparavant, elle avait indiqué que l'hypothèse d'un problème technique était privilégiée. Depuis les Jeux Olympiques d'hiver, les signes de rapprochement se multiplient entre les deux Corées, à tel point que le président américain Donald Trump salue aujourd'hui des progrès possibles sur le dossier nord-coréen. Car pour la première fois, Kim Jong-un a déclaré à des émissaires sud-coréens qu'il était prêt à des négociations avec les États-Unis au sujet de l'abandon de son programme nucléaire. Et les deux Corées sont tombés d'accord pour un sommet en avril. Cette annonce est tombée suite à la visite de deux jours d'émissaires sud-coréens à Pyongyang. Ils ont été reçus à dîner hier par le dirigeant nord-coréen. La correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Kim Jong-un en personne s'est dit prêt à des négociations de dénucléarisation avec les États-Unis et il suspendra tout essai nucléaire ou balistique pendant la durée des pourparlers, affirment les émissaires sud-coréens de retour de Pyongyang. La Corée du Nord a même affirmé son engagement à renoncer au nucléaire à long terme si la sécurité de son régime était assurée. Une déclaration à prendre avec des pincettes car de telles assurances seront très difficiles à obtenir. Les deux Corées sont aussi tombés d'accord pour un sommet entre leurs deux dirigeants Ce sera la première rencontre entre le nordiste Kim Jong-un et le sudiste Moon Jae-in. Elle aura lieu fin avril sur la frontière. Une ligne de communication téléphonique directe entre ces deux dirigeants sera aussi établie. Enfin, Pyongyang se serait engagé à ne pas utiliser d'armes nucléaires ou conventionnelles contre le Sud, une déclaration qui en réalité est un moyen de demander à Séoul de faire pression sur son allié américain pour le dissuader de se livrer à des frappes préventives. Ces déclarations sont spectaculaires, mais il faut rester prudent. Pyongyang et Washington ont déjà signé des accords de dénucléarisation dans le passé, des accords qui ont échoué, et il est difficile d'imaginer que le régime renoncera au nucléaire après y avoir tant investi, mais c'est néanmoins une vraie porte vers une solution diplomatique à la crise qui s'est ouverte aujourd'hui.
Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud. Les tractations politiques s'annoncent difficiles en Italie. Comme aucune majorité n'est sortie des urnes dimanche, à l'issue des élections législatives, le prochain gouvernement sera forcément le fruit d'une alliance. Or, celle qui semblait la plus probable, l'alliance Mouvement 5 étoiles et Parti démocrate, est vigoureusement combattue par Matteo Renzi. Le chef démissionnaire du Parti démocrate refuse que le centre-gauche devienne la béquille d'un gouvernement anti-système, mais sa position ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Pas question pour l'instant d'une alliance entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, mais la victoire des eurosceptiques dimanche est perçue comme un désaveu de plus pour l'Union européenne. Quentin Dickinson, vous avez suivi le scrutin depuis Bruxelles. Dans ce contexte peu favorable, comment relancer l'Europe ?
Eh bien, il est vrai, Aurélie, que les sujets de préoccupation s'accumulent pour l'UE. Outre le Brexit, on citera en vrac l'immigration, la Pologne, le populisme, la Hongrie, Donald Trump, la Catalogne, le terrorisme, et la liste peut encore continuer longtemps. Mais pour le député européen socialiste belge, Marc Tarabella, c'est cette accumulation simultanée de crises qui est le plus inquiétant, bien plus que l'incertitude politique du moment dans le pays de ses ancêtres.
Au niveau des milieux européens, c'est une douche froide parce que il est clair qu'on ajoute les crises les unes aux autres, ça devient difficile. Elles ont toutes été mal gérées ou pas gérées du tout. Et donc, il faut un grand coup de pied dans la fourmilière et j'espère qu'une fois encore, la solution et la renaissance de l'Europe viendra du couple franco-allemand. Et aujourd'hui, Madame Merkel peut repartir pour un quatrième mandat avec un SPD qui a mis des choses intéressantes au niveau du programme et notamment du programme européen. Et puis la France de Macron, au niveau européen, c'est vrai que pour l'instant, elle suscite un espoir de voir repartir l'Europe sur de bonnes bases. Mais il faut que ça se concrétise, évidemment, dans des politiques claires.
Alors oui, mais lesquelles ? Les maux de l'Europe ont souvent pour dénominateur commun de requérir des réponses immédiates, alors que les seules solutions connues demandent des années d'application avant de démontrer leur efficacité. Les 14 mois qui nous séparent des élections européennes pourraient, sans attendre la campagne elle-même, utilement servir à rétablir l'idée d'une Europe force qui protège ses citoyens des aléas de la mondialisation et de l'insécurité ambiante. Pour ce faire, il faudra mettre en valeur la guerre que l'Agence des frontières extérieures de l'UE livre tous les jours aux passeurs et aux immigrés clandestins. Le statut des authentiques réfugiés et leur répartition dans tous les pays européens devra être clairement expliqué. Servie par la reprise économique, l'Union européenne devra contrer les décisions protectionnistes irréfléchies de Washington et les dérives autoritaires de certains pays de l'UE, parce qu'elles sont incompatibles avec les valeurs de référence que les Européens ont en partage, devront faire l'objet des sanctions que prévoient les traités. Enfin, il conviendra de redonner quelque popularité à l'élection du Parlement européen le 26 mai 2019 à un seul tour. L'électeur doit pouvoir choisir l'élu qui deviendra président de la Commission européenne. De même, l'introduction du vote préférentiel, qui permet de voter pour n'importe quel candidat sur une liste, plutôt que pour la liste elle-même, pourrait susciter un regain d'intérêt pour la construction européenne. Comme on dit ici, toutes les bonnes idées sont les bienvenues.
Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Pour lutter contre la surpopulation carcérale et pour rendre les peines plus efficaces, la réforme de la justice prévoit le développement massif des peines alternatives. Emmanuel Macron s'est déplacé à Agen avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Le chef de l'État défend sa vision de la justice devant l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et l'idée générale, Sarah Guibaudot, c'est que l'emprisonnement ne sera plus la peine centrale.
Oui, les mesures les plus fortes qui viennent d'être annoncées ont pour but de limiter le recours aux courtes peines, jugées inefficaces et qui ne protègent pas la société, selon Emmanuel Macron. Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un mois seront tout simplement proscrites. Quant aux peines inférieures ou égales à six mois, elles devront s'exécuter en dehors de la prison, c'est-à-dire sous bracelet électronique, en semi-liberté ou en placement extérieur dans une association, sauf motivation expresse des juges. Le président a présenté d'autres mesures pour développer les alternatives à l'emprisonnement, la forfaitisation de certains délits, c'est la piste des amendes pour la consommation de stupéfiants, ou encore le dossier unique de personnalité. L'idée est de renforcer les enquêtes de personnalité dès le stade de l'enquête pour tenter de limiter le recours à la détention provisoire. Pour autant, le chef de l'État a aussi insisté sur la nécessaire effectivité des peines. Pour aujourd'hui, les peines inférieures ou égales à 2 ans d'emprisonnement peuvent être aménagées. Elles ne sont donc pas effectuées en prison. Pour Emmanuel Macron, cet aménagement quasi automatique relève d'une hypocrisie collective et n'est pas compréhensible. Il sera donc remis en cause. Emmanuel Macron renvoie ainsi dos à dos les laxistes et les vrais durs. Il veut, dit-il, rebâtir un système de peine à bout de souffle qui a fait de la prison l'antichambre de la récidive.
Sarah Guibaudot en direct d'Agen avec Yves Lehors à la technique. Comment est perçue cette réforme présentée comme une refondation pénale pour Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires? Ces mesures ne sont pas nouvelles, il faut aller beaucoup plus loin.
Ce sont des idées qui avaient déjà été mises en œuvre par Christiane Taubira, par exemple, ou d'autres ministres auparavant. Sans effet, notamment pour la contrainte pénale, qui était une peine réelle, alternative à l'emprisonnement, mais pour laquelle les magistrats ne se sont pas emparés lors du prononcé des sanctions. Rechanger l'échelle des peines n'est pas repenser l'exécution de la peine et qu'est-ce que le contenu d'une peine ? Qu'est-ce que la peine ? C'est écarter quelqu'un de la société parce qu'une personne a commis un méfait qui porte atteinte à la société. Après, sur le fond, comment la personne exécute sa peine, c'est une autre question. Et aujourd'hui, je pense que la réflexion de base qu'il faut avoir, c'est pourquoi et comment on exécute une peine et qu'est-ce que l'administration propose. Et je ne suis pas sûr que dans les annonces, il y ait un réel contenu. Le travail d'intérêt général, qui est une peine en lui-même, la personne va travailler pour l'intérêt de la communauté, mais rien ne lui est proposé pour qu'il travaille, lui, sur son passage à l'acte. Mettre quelqu'un sous bracelet électronique, c'est ne pas le mettre en prison. Mais si cette personne ne se voit pas proposer des espaces de réflexion par l'administration pénitentiaire en milieu ouvert, ce sera un échec. Si on ne propose pas, avec de l'argent derrière, et là c'est vers Bercy qu'il faut se retourner, des programmes réels de prise en charge avec une typologie de personnes délinquantes ou criminelles, nous n'y arriverons pas.
Damien Pellen répondait à Charlotte Lalanne. Deuxième jour du procès d'Hamza Mahouj, cet homme soupçonné d'être parti pour le djihad en Syrie après avoir enlevé sa fille de 18 mois. La mère avait finalement récupéré la petite Asia et Hamza Mahouj comparait devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs à visée terroriste et soustraction d'enfants par ascendant. Le compte rendu d'audience de Florence Turm.
Hamza Mahouj a grandi au milieu de 5 frères. Un père qui faisait les marchés, une mère qui souffrait de schizophrénie. Je l'ai toujours connu comme ça. À l'heure de parler de lui, il va y puiser l'explication de son rapport compulsif aux femmes, ses aventures adolescentes, la drague incessante sur Internet, y compris quand vous étiez mariés, souligne le président. C'est jamais assez ce qu'une femme vous apporte, c'est ça, intervient son avocate. Oui, c'est ça. Meriem Rayam s'avance à son tour à la barre. Il était borné dans ses idées. Faut pas abuser non plus, poste le prévenu, j'avais pas des propos radicaux. Après, on va faire le lien avec le terrorisme. Parlez-nous de votre fille aujourd'hui, reprend le président. Elle a 6 ans, ça se passe très bien, elle est en grande section de maternelle. Mais la jeune femme se souvient aussi, au début elle avait peur des avions, elle voulait toujours se cacher quand elle en voyait un. Et puis, un jour, pendant un entretien avec le psychiatre, elle a pris la béquille d'un Playmobil pour une Kalachnikov. Un silence. Elle sait où se trouve son père ? Non, elle sait juste qu'il est loin. Hier, une fraction de seconde, j'ai eu pitié de lui, poursuit Meriem Rayam, mais j'ai tout de suite repensé à ce que j'ai vécu moi. Alors j'avance, tout simplement. L'avocat de la défense avait demandé la mise en place d'un parloir médiatisé en prison, et j'ai dit non. La voix est ferme, presque définitive. C'est possible au moins d'avoir une photo de ma fille, de voir à quoi elle ressemble, glisse le prévenu. Cette fois, c'est le président qui tranche. Ce n'est pas la question, monsieur.
Le procureur a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté des 2/3. Un coup dur porté au projet Europa City. La justice vient d'annuler la création de la zone d'aménagement devant accueillir cet immense complexe de commerce et de loisirs au nord de Paris. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise estime que la population et les autorités auraient dû être mieux informées eu égard à l'impact potentiel sur l'environnement de la ZAC dite du triangle de Gonesse. C'est une large intersyndicale qui appelle à un nouveau mouvement de grève à Air France. Il aura lieu le 23 mars pour réclamer une revalorisation des grilles salariales de 6%. 11 syndicats représentant tous les métiers appellent à la mobilisation. Ils reprochent à la direction de rester sourde à leurs revendications. Éric Fallu, porte-parole du SNPNC, syndicat d'hôtesses et de stewards, souligne la détermination des salariés.
Nous avons accompagné avec beaucoup de pragmatisme des efforts de productivité de 20%, ce qui est quand même quelque chose d'inédit. Hein. En France, moi je ne connais pas d'autres sociétés de la taille d'Air France, KLM, qui réussit à obtenir ce genre d'accord de productivité. Nous avons perdu 10 000 emplois chez Air France depuis donc 2011, ce qui est absolument colossal. Aujourd'hui, l'entreprise va très bien, et notamment parce qu'on a fait des efforts durant cette période. Donc aujourd'hui, il faut que les efforts accomplis aussi portent leurs fruits. La direction, comme toutes les directions d'entreprises de cette taille, est toujours sur un discours d'austérité en disant quand ça va bien, il faut anticiper pour les périodes à venir qui iront sans doute mal. En revanche, nous, ce que nous observons chez Air France, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les salaires des hauts dirigeants ont été notamment cette année dissimulés. On ne connaît pas la valeur des augmentations qu'ils ont eues, puisque l'année dernière, lorsque ça avait fuité, ça avait quand même suscité beaucoup d'émoi chez les salariés. Et évidemment, si nous relançons à nouveau ce type de message à direction, c'est parce que nous sommes déterminés et que ça pourra conduire à quelque chose de plus long et encore plus dur.
Éric Fallu, porte-parole du SNPNC à Air France. Il reste aux élèves de terminale une dizaine de jours pour s'inscrire sur la nouvelle plateforme Parcoursup s'ils veulent poursuivre leurs études. Comment lutter contre l'échec en première année de licence chez les étudiants? C'est la question que vous vous êtes posée, Hakim Kasmi. Bonsoir.
Bonsoir, Aurélie.
Et vous vous êtes intéressé à un nouveau programme mis en place par Sciences Po Paris, lancé en juillet dernier et baptisé Premier Campus. Son objectif est de mieux préparer les lycéens boursiers d'Île-de-France à réussir dans le supérieur.
Oui, le cadre est très studieux, voire impressionnant dans cet ancien collège jésuite du XVIIe siècle, qui sont les locaux de Sciences Po à Reims. La journée commence par un cours de sciences politiques en amphi, dans les mêmes conditions qu'à l'université. Le sujet du jour porte sur l'histoire du vote. Ici, le but n'est pas de faire du soutien scolaire, ni de préparer les élèves à forcément intégrer Sciences Po, mais de leur apprendre la prise de notes et surtout avoir une meilleure réflexion sur l'utilisation de leur savoir. Dominique Régnier, professeur de politique à Sciences Po Paris.
Le vote a à voir avec de la philosophie, avec de l'histoire, avec du droit, avec des techniques électorales en particulier, avec des outils comme les statistiques, la géographie, etc. Et donc montrer à travers cet objet qu'est le vote que l'on peut mobiliser une pluralité de systèmes de connaissances, de savoirs et de disciplines qui, en gros, se retrouvent dans ce que Sciences Po dispense comme connaissances.
Des connaissances pas toujours faciles à assimiler pour ces lycéens qui arrivent en stage, à l'image de Saline qui est en première ES à Melun, en région parisienne.
On va voir que c'est pas du tout les mêmes cours qu'au lycée, donc la prise de notes est compliquée. On a dû s'entraîner pour ça avec les professeurs par la suite. Donc c'était ça, je pense, le plus compliqué.
Mais au bout de quelques jours, ils travaillent de manière très intensive la science, l'histoire ou encore l'anglais en petits groupes. Car les petits groupes sont eh bien, la clé de la réussite et de la compréhension pour Pamina Delouche, qui est professeure de sciences et vie et de la Terre et qui participe pour la première fois à ce dispositif.
Ils accumulent des lacunes depuis le collège et jamais on prend le temps de vraiment bien remettre à plat tout ça et notamment à effectifs réduits. C'est vrai, quand on est devant une classe à 30, on ne peut pas s'adresser à l'individu, on s'intéresse à un groupe, il faut gérer le groupe et c'est ça qui est primordial. Du coup, les élèves soit progressent par eux-mêmes, soit stagnent.
En attendant, si ces élèves qui participent depuis l'été dernier à ce dispositif n'ont pas eu forcément de meilleures notes, ils constatent déjà qu'ils comprennent mieux les cours, ce qui est déjà une victoire pour Bénédicte Durand, doyenne du Collège de Sciences Po Paris.
On assume que ce soit une goutte d'eau, c'est de tout petits effectifs étudiants en effet, mais au fond on le vit plutôt comme un incubateur pédagogique pour nous-mêmes et pour tous les collègues de l'enseignement secondaire qui partagent avec nous cette expérience du lien entre ce qu'on appelle le moins 3 plus 3, c'est-à-dire ce moment du passage entre le statut de lycéen et le statut d'étudiant.
Tous ces élèves seront suivis jusqu'au bac par Sciences Po Paris, ainsi que par une équipe de sociologues qui analysera eh bien, l'efficacité de ce dispositif Premier Campus.
Hakim Kasmi, Météo France prévoit demain de la pluie et des averses qui seront parfois orageuses. Les régions méditerranéennes seront relativement préservées et profiteront de belles éclaircies. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 8 degrés d'est en ouest. Il fera 7 à 12 degrés l'après-midi, 12 à 15 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.